C'est maintenant l'heure de prendre le relais de la conférence de presse des Nations Unies. Nous souhaitons une bonne écoute à tous nos auditeurs.
Bonjour à tous, merci aux auditeurs de Radio Okapi. Bienvenue dans cette nouvelle conférence de presse des Nations Unies en République démocratique du Congo. Avec nous depuis Goma aujourd'hui, le commandant adjoint de la force, le général Benoît Chavana. Et à mes côtés, ici à Kinshasa, le représentant de l'UNICEF en République démocratique du Congo, Edouard Bagbédé. Nous sommes également connectés, ou devrions l'être sous peu, avec nos bureaux à Bounia et à Beni. Avant de donner la parole à mes invités, je voulais vous signaler la chose suivante concernant la session parlementaire. Alors que la session parlementaire a commencé la semaine dernière, la MONUSCO salue l'accent mis par le président de l'Assemblée nationale sur l'inclusivité du processus électoral, en particulier en ce qui concerne la participation des femmes et de la jeunesse. La mission suit également avec une attention particulière les travaux sur les questions liées à la lutte contre les discours de haine, à la lutte contre la corruption et au cadre légal de l'état de siège et de l'état d'urgence. La mission, par le biais notamment des bons offices de la représentante spéciale du secrétaire général en RDC, Bintou Keïta, continuera à promouvoir un dialogue politique apaisé, serein et consensuel auprès de tous les acteurs. Elle rappelle qu'il est de la responsabilité de tous de garantir un processus électoral qui permette de créer la confiance. Par ailleurs, une délégation de la division d'assistance électorale de l'ONU est en RDC cette semaine à la demande des autorités congolaises afin d'évaluer et d'examiner les modalités d'un appui éventuel des Nations Unies au processus électoral. À noter également que Bintou Keïta interviendra devant le Conseil de sécurité mardi prochain, le 29 mars, lors d'une séance publique que vous pourrez suivre, comme d'habitude, sur le site des Nations Unies. Je voulais également vous signaler que le représentant spécial adjoint du secrétaire général, coordonnateur résident et coordonnateur humanitaire en RDC, Bruno Lemarquis, est en visite depuis le vendredi 18 mars dans les provinces du Nord-Kivu, de l'Ituri et du Tanganyika. Arrivé en RDC il y a moins d'un mois, il consacre sa toute première visite à une prise de contact avec les acteurs du développement et ceux du secteur humanitaire opérationnel dans ces provinces. Et nous espérons évidemment l'accueillir pour une conférence de presse sous peu, donc le nouveau coordonnateur résident et humanitaire en RDC, Bruno Lemarquis. Si mes collègues à Goma m'entendent, je vais maintenant donner la parole au commandant de la force adjoint, le général Benoît Chavana. Général, est-ce que vous nous entendez?
Alors, je vous entends assez faiblement, mais suffisamment pour comprendre que vous me donnez la parole.
Et on vous entend très bien.
Vous m'entendez de l'autre côté?
On vous entend très bien, on vous écoute.
Ah, voilà, le son est désormais très bon, je vous ai entendu. Donc, je vous remercie de me donner la parole. Je suis le général de division Benoît Chavana. Je suis l'adjoint du Force Commandeur et donc présent en ce moment en l'absence du Force Commandeur et pour vous donner le point de vue de la Force sur la mission en cours. Donc, très, très brièvement, je vais simplement vous rappeler quelle est notre mission, ce que vous connaissez déjà très bien, et vous donner les quelques tendances qu'on observe, et enfin vous dire quels sont nos principaux efforts, nos principaux challenges, comme on dit, auxquels nous faisons face aujourd'hui. Donc d'abord, la mission, la force répond simplement aux impératifs du mandat, qui, vous le savez, sont la protection des civils, d'une part, et le soutien de sécurité congolaise, d'autre part, l'une et l'autre de ces parties de la mission étant, bien sûr, intimement liées. Cela se traduit sur le terrain par une action permanente à partir des bases militaires que vous connaissez, des bases pas que militaires, puisqu'elles engerbent évidemment des éléments civils, et sur les axes pour escorter des convois, pour patrouiller de jour comme de nuit, mais aussi dans les airs, pour effectuer des missions de reconnaissance utiles pour préparer les opérations, le tout dans un souci de protection des civils. Maintenant, brièvement, je voudrais souligner quelques tendances. Vous le savez, la situation sécuritaire ne s'améliore pas, il ne faut pas se cacher. Elle a même tendance à se détériorer selon les zones. Et si on prend du nord au sud, de manière un peu caricaturale pour aller vite, nous avons les CODECO au nord qui ont un peu évolué dans leur mode d'action et leurs objectifs et qui s'en prennent, vous le savez, depuis quelques semaines au camp de déplacés. Vous avez évidemment les ADF qui sont combattus vigoureusement par les armées ougandaises en lien avec les FARDC et qui continuent à commettre ici ou là des atrocités. J'y reviendrai. Vous avez le M23 dont on sent quelques signes de regain d'activité, notamment contre les FARDC directement, mais indirectement sur les civils. Et vous avez plus au sud, bien sûr, les Mai Mai ou des Mai Mai qui s'en prennent à des communautés, vous le savez, sur les hauts plateaux. Simplement, je voudrais souligner quelques modes d'action, quelques tendances qu'on a observées. La première chose, je l'ai déjà dit, c'est l'action contre les camps de déplacés qui ont exigé de notre part une réaction appropriée avec des moyens appropriés pour protéger les camps et éviter le pire. La deuxième chose, ce sont l'usage ou en tout cas l'emploi d'un certain nombre de mineurs, d'enfants donc. Certains groupes armés en RDC qui utilisent des enfants mineurs, des enfants soldats pour augmenter les effectifs. C'est une situation que l'on connaît depuis longtemps mais qui a tendance à perdurer. Je vous donne simplement un exemple. À Béni, des jeunes cadres d'ADF de l'âge de 15 ans avec leurs fusils ont été appréhendés par les FARDC à Kamango. Il y a aussi une autre tendance qui est qui est liée aux soldats qui se rendent. Donc il y a des soldats qui se rendent et ces défections finalement sont directement liées à des actions conjointes ou unilatérales de la MONUSCO et des FARDC. Je donne un exemple. Dans le Nord Kivu, le 20 mars, un cadre de 25 ans associé au M23 s'est rendu au camp de DDR de Kichanga. Et je peux, évidemment, il y a d'autres exemples. Ils se rendent donc consécutivement à des actions directes de la force. Enfin, une autre tendance est la question des représailles. J'ai parlé des ADF et des actions ougandaises contre les ADF. Eh bien, il ne faut pas imaginer que, au prétexte que on mène des opérations contre les ADF, eh bien le niveau d'insécurité va brutalement baisser et que les attaques vont brutalement cesser, puisqu'il y a des mouvements de va-et-vient et en tout cas des mouvements de représailles qui sont conduits à la suite d'arrestations de certains cadres ADF en particulier. Voilà, j'arrête pour ces exemples et de manière à davantage laisser place à des questions. Enfin, dernier point, que faisons-nous? Que fait la force? Quels sont ses principaux objectifs? Je soulignerai deux préoccupations majeures qui sont d'une part la projection, c'est-à-dire qu'il y a la question de la protection des civils, mais la protection, elle ne se fait pas de manière statique, elle se fait par la projection de force. La MONUSCO a des moyens, elle a des forces, et elle projette davantage aujourd'hui que dans le passé des éléments, ce qu'on appelle des quick response force, c'est-à-dire des unités qui sont précisément destinées à des actions ponctuelles, offensives, de protection autour de zones bien identifiées, toujours pour la protection. Donc nous cherchons un équilibre entre les actions de protection et les actions de projection. Le deuxième maître mot de nos efforts, c'est la coordination, une coordination renforcée avec notamment les FARDC, et je terminerai par un exemple qui est d'actualité, puisque hier, le chef d'état-major des armées, le général Mbala, m'a appelé vers 11h du matin pour me demander si j'étais disponible à Goma pour le rencontrer, ce que nous avons fait. Nous avons discuté pendant une heure sur la plupart des enjeux du moment, sur le centre de coordination opérationnelle de Goma qui vient d'être établi, construit, et qui intègre un certain nombre d'acteurs liés à la sécurité. C'est un grand pas en avant que nous faisons pour partager nos informations, pour échanger des officiers de liaison, pour préparer des opérations unilatérales ou conjointes, en tout cas coordonnées, pour tirer ensemble les enseignements de ce que nous observons et des actions. Et donc, nous avons discuté autour de cette question de la coordination. Et je termine en disant simplement que, en tout cas pour ceux qui sont ici à Goma avec nous et pour d'autres, je vous invite pour une prochaine fois à venir visiter ce centre de coordination des opérations qui est tout proche de l'aéroport de Goma et qui mérite qu'on s'y attarde parce que c'est une des clés l'une des clés de la réussite de notre mission sur les territoires du Nord Kivu, Sud Kivu et Ituri. Je vous remercie de votre attention.
Merci beaucoup, Général Chavana. On va maintenant donner la parole au représentant de l'UNICEF en République démocratique du Congo, Edouard Bagbédé, et ensuite on prendra des questions. Edouard, vous avez la parole.
Merci infiniment. Mon intervention aujourd'hui tournera autour de deux points, à savoir le processus de sortie et de réintégration des enfants associés aux forces et groupes armés, dont on vient juste de mentionner, et aussi la création de Bana Okapi, qui est une nouvelle radio destinée aux enfants et aux parents de la RDC. Au sujet du processus de sortie et de réintégration des enfants associés aux forces et groupes armés, on vient de mentionner ici plusieurs exemples d'enfants qui viennent au sein de l'ADF ou d'autres mouvements et qui ont été maintenant libérés. Il faut savoir que depuis 2017, il y a plus de 17 500 enfants qui sont sortis des groupes armés et qui ont été assistés. Et cela est la pointe de l'iceberg. Ça, ce sont les cas qui sont connus, documentés, sur lesquels l'UNICEF et d'autres partenaires ont travaillé. Sur ces 17 000, près de 10 000 enfants ont bénéficié de programmes de réintégration individuelle et ou collective dans leurs familles et communautés. Et lorsqu'on regarde l'année 2021, l'année dernière, plus de 3 300 enfants ont été séparés et pris en charge dû à ces différents conflits. Donc c'est vraiment quelque part un sujet qui est très préoccupant. Et comme je le dis, ce sont des cas uniquement documentés. Il y a d'autres cas que l'on ne connaît pas et qui sont aussi importants. L'UNICEF, en tant que membre de l'équipe spéciale des Nations Unies, est l'un des co-signataires du plan d'action pour la lutte contre le recrutement et l'utilisation d'enfants, ainsi que les autres violations graves des droits de l'enfant par les forces armées et les services de sécurité de la République démocratique du Congo. Et ça a été signé, cela, en octobre 2012. Et c'est ainsi que nous avons salué, à juste titre, le rapport du secrétaire général de l'ONU du 24 août 2017 sur l'utilisation des enfants dans les conflits armés, qui a officiellement radié les forces armées de la République démocratique du Congo, la FRDC, de la liste noire des formations militaires qui recrutent et utilisent des enfants dans les conflits armés. Lors de ma récente visite à Goma, je me suis réjoui des efforts conjoints fournis au niveau des centres de recrutement des militaires, des centres d'instruction des militaires et des policiers pour l'évaluation systématique, de sorte que tous les enfants mineurs qui se présenteraient soient directement écartés de rang des recrues. L'UNICEF encourage également les efforts du gouvernement pour la sortie de la RDC de la liste noire des formations militaires indexées pour les violences sexuelles dont les enfants et les femmes sont les plus exposés. En ce qui concerne la réintégration, le soutien à la réintégration socio-économique et scolaire des enfants pose encore des soucis. L'UNICEF et ses partenaires ne disposent pas suffisamment de ressources à long terme pour fournir un soutien de qualité et durable. Un contexte des conflits armés et de sécurité volatile, plus particulièrement dans les provinces de l'Est, ne favorise pas non plus une appropriation communautaire de la réintégration. Je voulais ici remercier le président de la République et le gouvernement pour le nouveau programme de démobilisation, désarmement, réinsertion communautaire et sociale, le PDDRCS, créé le 4 juillet 2021, afin de promouvoir la stabilité, la cohésion sociale et de prévenir les conflits armés. L'UNICEF réaffirme ici son engagement pour assurer avec le leadership du gouvernement une protection adéquate et digne aux enfants malheureusement victimes de violations de leurs droits, et nous réitérons notre appel à toutes les parties au conflit afin de garantir le respect des droits des enfants. Le deuxième sujet que je voulais aborder aujourd'hui, c'est effectivement de parler un petit peu de la radio Bana Okapi, qui est la petite sœur de la radio Okapi, destinée aux enfants et aux parents de la RDC. Cette nouvelle radio est le fruit d'un partenariat entre la radio Okapi, l'UNICEF, l'UNOPS et d'autres agences des Nations Unies. L'objectif de ce partenariat est de permettre aux parents et leurs enfants d'avoir accès aux services de base tels que l'éducation, la santé, la nutrition, la petite enfance. Bana Okapi est aujourd'hui implantée dans 11 villes de la RDC, à savoir Kinshasa, Lubumbashi, Kananga, Kisangani, Bukavu, Goma, Matadi, Mandaka, Kalemi, Beni et Butembo. Et l'objectif durant cette année, c'est de couvrir les 40 villes du pays dans lesquelles la radio Okapi elle-même émet. Donc, c'était les deux points que je voulais apporter aujourd'hui pour ce point presse. Merci beaucoup.
Merci beaucoup, Monsieur Bagbédé. On va commencer avec une question ici à Kinshasa pour l'un ou l'autre de nos invités, donc le commandant adjoint de la force ou le représentant de l'UNICEF, ou même moi-même. Est-ce qu'il y a une question ici? Là, à droite.
Merci pour le droit de la parole, Saint-Germain-des-Prés. L'étonnaire.info. Ma question s'adresse à l'homme de l'UNICEF. Elle est subordonnée à votre affirmation selon laquelle 17 700 enfants ont été sortis des groupes armés et ont été assistés. Et parmi ces enfants, il y en a qui ont bénéficié d'une réintégration collective et d'autres d'une réintégration individuelle. La question est de savoir à quel niveau se trouve la démarcation entre les deux genres d'intégration. Je vais parler.
Alors effectivement, depuis 2017, c'est les statistiques que l'on a et que l'on publie d'une façon régulière dans les rapports du MRM. Il y a eu 17 500 enfants qui ont été sortis des groupes armés et à peu près 10 000 enfants ont bénéficié de programmes de réintégration individuelle et, comme vous l'avez dit, collective ou collective dans leur famille et communauté. Il est à savoir que lorsque on sort un enfant des groupes armés, donc souvent ils sont amenés par la MONUSCO ou bien ils viennent directement à travers un partenaire, chaque cas est vu individuellement. Donc c'est l'individu, c'est l'enfant qui compte. Chacun a eu des rôles avec différents traumatismes pendant son expérience, son exposition. Certains étaient utilisés dans les cantines, certains étaient porteurs, d'autres faisaient partie des membres qui commettaient des violences. Certains de ces enfants ont subi des violences sexuelles. Donc il est très important pour chaque enfant d'avoir un regard individuel. Et souvent, ils sont mis avec des partenaires dans différents endroits comme la CAGED, à Goma, comme Côte et d'autres. Et on fait un programme, je dirais, individuel. Maintenant, ce programme individuel, l'évaluation individuelle rentre dans des programmes collectifs. Typiquement, nos partenaires comme CAGED ou COTE ont des programmes qui sont similaires sur les enfants avec des spécificités par rapport à leur histoire. Donc c'est effectivement de bien voir comment travailler sur la réintégration. Après, chaque réintégration est différente. Certains de ces enfants ont leurs parents, d'autres ont des familles élargies, d'autres ont atteint la majorité, le temps qu'ils aient passé plusieurs mois dans les centres dans lesquels ils réapprennent à une certaine socialisation. Et d'autres. Et donc là, on va avoir aussi des réintégrations au niveau communautaire. Donc c'est effectivement... et puis, on écoute l'enfant, on écoute la famille, et on essaye de trouver la meilleure solution pour chacun. Donc je dirais que la plupart du travail, il est fait au niveau de l'individu, de l'enfant, donc individuel, mais on utilise pour cela certaines réponses collectives, comme des partenaires, comme je dis, CAGED, COT, comme des systèmes de cash transfer ou des systèmes de donner un certain nombre d'appuis pour pouvoir aller à l'école. Et c'est là où on appelle ça collectif, si vous voulez, en termes de réponses.
Merci. On va prendre une question à Goma, s'il vous plaît. Goma.
Vas-y.
Ouais, je suis Samuel Abiba de Grand Lac News. Comme l'a dit le commandant Chavana, la crise à l'Est va dans le sens de se détériorer. Pourtant, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a annoncé son pays allait rapatrier ses casques bleus et ses équipements militaires déployés en Afrique, notamment en RDC. Alors, on voulait savoir à quand, parce que c'est depuis le 10 mars, je voulais savoir à quand aura lieu ces rapatriements, mais aussi ces vides-là, comment va être comblé par la MONUSCO. Merci.
Donc, j'imagine que c'est à moi de répondre à la question.
Tout à fait.
Donc les éléments sont assez clairs. Nous avons eu, comme vous le savez, une demande du gouvernement ukrainien qui s'est adressée au siège des Nations Unies à New York pour demander le rapatriement au plus vite des effectifs ukrainiens dans les missions de maintien de la paix. Il se trouve que sur les 300 et quelques Ukrainiens déployés dans les missions de l'ONU, près de 300 le sont à la MONUSCO. Donc c'est la MONUSCO qui est la première concernée par le retrait des Ukrainiens. Les Ukrainiens présents dans la force de la MONUSCO le sont à deux titres. D'abord des officiers qui sont soit des observateurs militaires partis sur le terrain, soit des officiers d'état-major à l'échelon d'état-major à Goma. Ils sont moins d'une quinzaine. Et il y a d'autre part une unité d'hélicoptères avec un certain nombre d'hélicoptères de transport, 8 très exactement, et tout leur environnement, en termes de soutien, de logistique, bien sûr, pour un effectif de 250 soldats ukrainiens. La décision, comme vous l'imaginez, le rapatriement n'est pas une chose facile. C'est assez facile pour des personnes individuelles, et ces personnes individuelles que j'ai citées tout à l'heure, qui sont des officiers d'état-major, seront rapatriés, si ce n'est dans leur pays, en tout cas dans la zone, parce qu'on imagine que ça peut être en Pologne, mais je n'en sais rien, il ne m'appartient pas de le savoir, ni même d'en juger. En tout cas, ils seront rapatriés courant avril, très probablement à la mi-avril. Quant à l'unité d'hélicoptère, c'est une manœuvre qui prend pas mal de temps, parce qu'il faut d'abord remettre en état les hélicoptères pour leur permettre de rentrer, il faut probablement les repeindre, il faut aussi et surtout les transporter. Et cette manœuvre de transport qui s'est faite à l'aller quand les Ukrainiens ont pris place dans la mission, très probablement avec des moyens aériens ukrainiens qui aujourd'hui ne sont plus disponibles, cette mission de transport va donc être assez compliquée et cette mission de transport ne relève pas de la responsabilité de la MONUSCO aujourd'hui, elle relève de la responsabilité du siège des Nations Unies à New York qui doit probablement, même certainement, étudier les conditions de cette manœuvre. En termes de délai, les hélicoptères ukrainiens continuent aujourd'hui, ils représentent un peu moins du tiers de la flotte d'hélicoptères dont dispose la MONUSCO. Ils sont toujours en mission aujourd'hui, ils accomplissent une excellente mission, dans un excellent état d'esprit, et ils réalisent parfaitement leur mission. Ils la réaliseront jusqu'au bout, c'est-à-dire très vraisemblablement jusqu'à la mi-avril. Cela reste à confirmer, donc je le dis avec une certaine retenue et une certaine prudence. Quant à la deuxième partie de la question, c'est-à-dire quel est le vide capacitaire que cela représente, eh bien, je vous ai dit, ça représente un peu moins du tiers. Eh bien, ça veut dire simplement qu'il faut s'organiser en attendant d'avoir un renforcement. Ce renforcement, il sera sollicité par le quartier général des Nations Unies à New York auprès d'autres nations qui sont soit des nations déjà contributrices d'hélicoptères pour la force, soit d'autres nations. Pour l'instant, nous n'avons pas d'éléments précis à vous donner. Et quant au vide qui sera probablement à supporter à partir du mois d'avril, eh bien, c'est une question d'organisation. Nous allons probablement mieux optimiser les vols, probablement, même certainement, prioriser davantage. Ce qui est sûr, c'est que l'essentiel des missions continuera à être assumé, non seulement en matière de déplacement, mais aussi et surtout en matière d'évacuation sanitaire, à la fois pour la force, mais aussi pour les FRDC, à qui nous prêtons notre soutien avec ces moyens aériens.
Merci beaucoup, Général. Une question à Bounia, s'il vous plaît, et ensuite on revient à Kinshasa.
Moi, c'est Dieu merci Udongo, je suis journaliste à la radio Canal Révélation Bounia. Le représentant spécial adjoint chargé des affaires humanitaires des Nations Unies, Bruno Lemarquis, était en province de Rutshuru sous état de siège et il a visité les différents sites de déplacés où on retrouve plus de 2 millions de ces déplacés, mais la situation humanitaire reste toujours préoccupante avec également les taux élevés de pauvreté. Alors ma question s'adresse au porte-parole de la MONUSCO. Peut-on parler des situations humanitaires pendant que les bombes pleuvent dans la partie, surtout du territoire d'Ndjougou, ou bien peut-on parler tout simplement de la situation sécuritaire? Merci.
Écoutez, je pense que ici vous avez des représentants de la communauté humanitaire, vous avez des représentants qui travaillent sur l'aspect militaire. Il est évident pour nous qu'au Congo, tout est lié. C'est pour ça que nous travaillons, la MONUSCO, avec l'UNICEF, notamment sur les redditions d'enfants. C'est pour ça que la force aussi contribue à la sécurisation de certains convois et de certains partenaires humanitaires, à la fois des Nations Unies et autres. Et les deux situations sont liées. Mais je vais peut-être demander au commandant adjoint de la force de détailler un petit peu ce qui a été fait justement pour renforcer la sécurité dans les sites de déplacés en Ituri.
Alors, il y a les principes et la réalité. Comme ça a été très justement dit, les problématiques sécuritaires et humanitaires sont intimement liées. C'est-à-dire, dès qu'il y a une opération, il y a d'une part des exactions qui sont commises par les groupes armés, vous les connaissez malheureusement, elles sont nombreuses, mais il y a aussi dans la partie réaction et dans les combats que nous pouvons mener contre les uns et les autres, des risques qui ne sont jamais à écarter, des risques de dommages collatéraux, etc. Et ensuite, il faut évidemment non seulement venir en soutien des populations pour les protéger d'actions futures, donc pour protéger la surattaque, ou si vous voulez, on dirait en cas d'accident, le suraccident, mais c'est exactement le même principe. On se met en protection, dans un dispositif de protection autour des villages. C'est exactement ce qui s'est produit à propos des camps déplacés, puisque c'est vraiment l'actualité de ce début d'année 2022, avec ce fameux camp de Savo, je ne me trompe pas, qui a été attaqué avec une soixantaine de morts parmi les membres de ce camp de déplacés. Il se trouve que le système d'alerte a relativement bien fonctionné dans la mesure où il a fallu moins de 2 heures aux forces de la MONUSCO pour intervenir, avant même les FRDC autour de ce site, et ensuite d'être présent. Donc nous avons envoyé ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire une Quick Response Force, c'est-à-dire une unité qui n'est pas dédié à une zone d'opération de manière permanente, mais qui est dédié précisément à la réaction et qui a été mise en place pour plusieurs semaines. Et à l'issue de ces semaines, eh bien, il y a un dispositif plus mobile et en coordination avec la FRDC qui a été mis en place. Puisque je rappelle tout de même que les camps déplacés, la sécurité permanente des camps déplacés n'est pas à la charge de la MONUSCO. Sécurité permanente des camps déplacés, c'est l'affaire des autorités congolaises dans leur globalité, avec les forces de sécurité congolaises et évidemment avec la MONUSCO qui est impliquée pour réagir, pour protéger quand on a des signaux faibles ou même des signaux plus précis d'une menace. Tout est toujours possible, il y a cette flexibilité et cette réactivité dont nous avons fait preuve évidemment trop tard, puisque la question qui se pose toujours pour une force quand on est sur un territoire aussi vaste, déployé dans un certain nombre de bases, c'est que dès qu'il y a une attaque quelque part où l'on n'est pas présent, on a toujours le sentiment d'arriver trop tard. On a toujours le sentiment d'arriver trop tard. C'est quand même un peu court comme explication, puisque en réalité, en arrivant dans un délai très bref, d'une part, on évite une aggravation de la situation, on provoque la dispersion des fauteurs de troubles ou des assassins, pour employer des termes plus précis, hein, et puis on montre, quand on arrive dans un délai réduit, que eh bien, on a une force qui est réactive et mobile, qu'on a une capacité de manœuvre, et que c'est ce qui nous permet de réaliser en termes militaires ce qu'on appelle un contrôle de zone, ou en termes anglais, domination of area. Et vous savez bien qu'avec 13 000 soldats sur le terrain, sur la totalité de l'espace Nord-Kivu, Sud-Kivu et Turie, il est absolument impossible d'être présent partout. Donc nous sommes présents le plus possible pour proposer des zones refuges, ce qui est un peu le cas de nos bases, et pour sécuriser des axes dans les déplacements de tel ou tel, et en même temps pour être prêt à agir en intervention, en réaction.
Merci, je crois que Edouard, vous vouliez ajouter un mot.
Oui, non, c'est pour dire qu'effectivement on est extrêmement préoccupé par la situation en Iturie sur les différents conflits qui provoquent de plus en plus de déplacés au niveau de cette province. Plus de 50% de ces déplacés sont des enfants qu'on enlève de leur environnement, on les enlève des écoles, ils n'ont plus accès réellement au système de santé, ils ont des problèmes de nutrition. Et c'est une situation extrêmement préoccupante, car il y a de plus en plus la peur qui s'installe. Et comme on le sait, la peur est mauvaise conseillère. Et donc il faut absolument essayer de remettre un dialogue entre les communautés et travailler avec les deux communautés ou les différentes communautés qui sont présentes en Iturie pour ce faire. Il n'y a pas une situation qui ne peut pas trouver une solution sociale, politique. Il faut donc mettre tout en œuvre pour essayer naturellement de sécuriser, mais aussi d'apporter un support qui permet l'ouverture d'un dialogue. Il y a quelques mois, quelques années, la situation n'était pas celle d'aujourd'hui. Il y a eu une dégradation, lorsque je regarde, quand je suis arrivé en 2019, et aujourd'hui, qui est très importante. Et en même temps qu'il faut naturellement avoir une solution immédiate, sécuritaire, humanitaire, il faut trouver de nouveau un espace de dialogue pour avancer. Sinon, on va avoir de nouveau une génération qui va être perdue en Iturie, et c'est toujours les causes de perpétuation de la pauvreté, de ne pas aller vers le développement, et d'avoir des situations après individuelles terribles, comme on en a parlé tout à l'heure, avec du coup l'enrôlement des enfants dans les forces armées, avec une génération qui n'a pas eu accès à l'école et qui n'a pas le minimum pour participer au développement d'un pays et autres. Donc je trouve vraiment la situation extrêmement grave, et c'est vrai que beaucoup d'agences travaillent là-bas pour essayer d'apporter un minimum d'aide. Mais j'en appelle vraiment aujourd'hui aux forces vives de l'Iturie, de la société civile et autres, pour trouver, repartir sur le dialogue, parce que sinon la peur peut créer des choses qui peuvent être terribles. Et c'est vraiment très important. Merci.
Merci Pascal.
Merci Moulegwa pour RFI. Au général des divisions, dans vos propos liminaires, vous avez noté que la situation sécuritaire dans l'Est, dans le Nord, Kivu, Sud-Kivu et l'Ituri, ne s'est pas améliorée et que par contre, elle tend à s'empirer. Pourquoi un discours contraire à celui des autorités, notamment gouvernementales, celle de l'état de siège, qui note en fait une amélioration nette de la situation sécuritaire, et pourtant vous êtes deux acteurs sur le terrain? Si la situation ne s'est pas améliorée, qu'est-ce qui entrave l'amélioration de cette situation d'après vous?
Alors, je vais préciser un peu les choses. Moi, je suis commandant de la force actuellement. Je participe à un point presse, qui est un point presse régulier, et j'observe des tendances des dernières semaines, comme je vous l'ai dit. Et je pense qu'il faut appeler un chat, il faut dire la réalité, dire la vérité, et en même temps, il faut prendre parfois le recul sur des tendances plus longues. Donc, évidemment, la situation, d'une manière globale, depuis quelques mois, et je pensais aux efforts de coordination, a tendance à s'améliorer, mais si on observe ces derniers mois, vous l'avez observé comme moi, depuis le mois de janvier, avec les atrocités commises sur les camps AIDP, enfin les camps de déplacés, avec tel ou tel signaux, tel ou tel attaque des ADF, on se rend compte que dans une courbe globale d'une tendance qui semble être positive, eh bien, il y a des à-coups. Et ces à-coups, il s'agit d'y faire face. Donc, je ne crois pas que mon discours soit... D'abord, c'est un discours de terrain. Vous me demandez mon intervention, je vous donne mon appréciation de la situation. Et ça me paraît normal. Et en même temps, je ne pense pas que cette appréciation soit à l'opposé du discours gouvernemental. Chacun est à sa place, chacun joue son rôle et chacun a le devoir d'observer ce qu'il est, ce qu'il fait, ce qu'il voit. Donc moi, je vous donne mon appréciation. Je pense qu'il y a raisonnablement des raisons d'être optimiste, malgré des détériorations qui sont, je pense et je l'espère, conjoncturelles, parce que nous avançons, parce que nous obtenons des résultats, parce que nous finissons par concentrer davantage nos moyens. C'est ce qu'on appelle dans les termes militaires la concentration des efforts. Aujourd'hui, on voit, pour prendre l'exemple des ADF, puisque je pense qu'il faut parler sur des exemples précis, nous avons des actions conjuguées avec les forces ougandaises dans la zone que vous connaissez, et nous avons une zone au nord de Beni, en direction d'Eringeti, du côté de Mamové, Komanda, où un certain nombre d'actions d'ADF ont été observées et où nous concentrons nos efforts. Ce n'est pas un secret de le dire, ce n'est pas un secret opérationnel, c'est simplement pour vous montrer que petit à petit, eh bien, la menace, elle a beau... L'insécurité, elle ne va pas disparaître du jour au lendemain, si vous voulez. Je pense même que quand la MONUSCO aura retiré l'empreinte qu'elle a aujourd'hui, puisque c'est quand même l'un des objectifs, une transition qui se fera à un moment ou à un autre, il est probable, il est même certain que l'insécurité demeurera. Il y aura toujours une sorte un banditisme ordinaire, si on veut. Il y aura toujours, malheureusement et probablement, l'action de groupes armés. Mais quand on prend la tendance dans la durée, eh bien, on va s'apercevoir qu'on a réduit et concentré davantage les lieux d'action des groupes armés face auxquels nous agissons. Donc, encore une fois, je ne crois pas que mes propos soient contraires à ce que vous évoquiez.
Merci beaucoup. Une question pour Benny.
Bonjour à tous. C'est Martial Papillon Keba de Radio Okapi. Ma première question s'adresse au commandant adjoint des forces de la MONUSCO. Actuellement, dans la région de Beni, il y a trois forces qui sont déployées sur le terrain. D'abord les FARDC, la MONUSCO et puis l'UPDF, qui ont un ennemi commun, ce sont les ADF. Comment se passe la coordination des opérations sur terrain entre ces trois forces? Et la deuxième question est adressée aux représentants de l'UNICEF. Vous avez donné des chiffres sur les enfants qui sont sortis des groupes armés. Et selon les chiffres à votre disposition, quel est le groupe armé qui s'est beaucoup plus illustré ces derniers mois ou ces dernières années dans les recrutements d'enfants? Merci.
Merci, Général. Vous commencez?
Alors, je commence bien volontiers. Alors, vous l'avez parfaitement décrit. Il y a donc, c'est un peu le centre de gravité de nos opérations aujourd'hui, cette zone de Beni aujourd'hui, même s'il y a d'autres menaces ailleurs. Les opérations des forces ougandaises ont été lancées, comme vous le savez, à la fin de l'année 2021. Elles ont été lancées avec l'autorisation et même sur la demande, en tout cas en coordination entre les deux gouvernements. Ça n'a pas à être commenté. Ces opérations sont des opérations conjointes des forces ougandaises et des FARDC. La MONUSCO n'est pas partie prenante aux opérations proprement dites. Pour autant, il a été établi un mécanisme qu'on a appelé mécanisme tripartite de coordination, qu'on appelle toujours mécanisme tripartite de coordination, qui a démarré avec des rencontres de haut niveau, et notamment le commandant de la force, qui est allé à Kampala rencontrer son homologue, et donc depuis, il y a eu un certain nombre de rencontres pour établir des mécanismes de coordination. Je vous les décris très sommairement, ça prend 5 minutes, ça prend 2 secondes. D'une part, nous avons établi des dispositifs de liaison. Je parlais du centre de coordination des opérations à Goma. Il y a un centre à Beni également, où sont présents, notamment à Beni, un officier de liaison de l'UPDF. Donc, il y a un mécanisme de coordination. Ensuite, nous échangeons, nous avons décidé de définir quelles étaient les limites de zone d'action. Donc, il y a des zones d'action, il y a une zone où sont les UPDF et où la MONUSCO n'est pas. Ensuite, nous avons établi des mécanismes d'échange d'informations ou de renseignements sur la base de nos outils de renseignement, qui sont notamment des outils techniques de reconnaissance aérienne, de drones, de surveillance de l'espace d'une manière globale. Ensuite, nous avons établi un mécanisme de soutien, c'est-à-dire que c'est un soutien logistique et en particulier sanitaire. C'est-à-dire les évacuations sanitaires que nous procurons déjà au profit des FRDC dans leurs opérations sont proposées également par la MONUSCO au profit des UPDF et des FRDC. Donc tous ces mécanismes sont bien en place. Il y a toujours des opérations en cours. Il y a un certain nombre d'informations précises sur le terrain dont nous n'avons pas connaissance, mais ça n'est pas une anomalie. Ce qui nous préoccupe aujourd'hui et toujours, c'est l'impact des opérations ougandaises sur le reste du territoire. Et comme je vous l'ai laissé entendre tout à l'heure, ces opérations, un petit peu, si je peux prendre l'image d'un essaim d'abeilles, si vous donnez un coup de pied dans un essaim ou une fourmilière, ben forcément, ça s'échappe. Et donc, on a des actions d'ADF qui ont tendance à être produites à l'ouest de l'axe nord-sud de Beni à Eringeti et un peu au nord. Et donc c'est grâce à cette coordination que nous pouvons identifier, localiser tant que c'est possible et agir contre les ADF résiduels qui agissent dans cette zone. Donc le mécanisme est en place, il peut certainement progresser encore. Et nous y sommes très attentifs.
Merci beaucoup, Edouard. Je vais vous laisser répondre. Vous avez 2 minutes 30.
Merci. Donc, effectivement, l'UNICEF, d'ailleurs en collaboration avec la MONUSCO et d'autres partenaires, travaille sur un mécanisme de surveillance et de monitoring, qu'on appelle le MRM communément, des 6 grandes violations des droits de l'enfant. En 2021, je pourrais citer 3, mais bon, j'ai pas toutes mes datas avec moi, le détail du rapport du MRM qui est public. Hein. C'est un rapport qu'on envoie au Conseil de sécurité, mais on avait effectivement mentionné le groupe ADF, on avait mentionné le groupe Codeco et un certain nombre de groupes de Mai Mai. Voilà, c'est un peu les 3 grands pourfendeurs aujourd'hui par rapport au recrutement d'enfants. Il y en a d'autres et je vous conseille, on est naturellement prêt à vous distribuer le rapport du MRM que l'on a soumis au niveau du Conseil de sécurité il y a quelques mois.
Merci Jean-Pierre, on a le temps pour une micro-question. Il faut aller très très vite.
Bon, j'aimerais que le commandant adjoint de la force de la MONUSCO revienne un peu sur les entretiens que le général Mbal a eu avec les officiers de la MONUSCO.
Merci. Général, vous avez une minute pour répondre, s'il vous plaît. Merci.
Alors, dans des entretiens de cette nature, alors vous parlez probablement d'entretiens que j'ai eu hier avec lui, mais il y en a d'autres, parce que nous sommes en contact de manière constante. Donc, par exemple, pour parler des entretiens d'hier, il y a évidemment 2 niveaux. Il y a des choses dont je peux parler, les grands principes, la question de la coordination, du fonctionnement du centre de coordination des opérations, dont le général Mbala a demandé qu'il puisse être activé 24 heures sur 24, ce qui est déjà en grande partie le cas, et pour lequel il a décidé d'augmenter la participation des FRDC. Donc ça, c'est pas un secret de le dire. Et par ailleurs, il y a un certain nombre de discussions ou de sujets que nous avons abordés qui ne, pour des raisons de confidentialité des opérations à préparer, ne peuvent pas être mises sur la place publique.
Merci beaucoup, Général. Désolé, c'est tout le temps que nous avons aujourd'hui, nous devons rendre l'antenne. Merci et nous nous voyons dans 2 semaines pour une nouvelle conférence de presse. Merci aux 2 invités. Merci à vous d'avoir été présents et bonne suite de la journée sur Radio Capi.
Merci à vous. Il est 12h à Kinshasa.